les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le taureau rouge de la Guadeloupe, un charmeur de serpents, une revenante sans tête, un petit noir qui fait pleuvoir. Et puis, un nouveau-né, un nuage, un bœuf, un mammouth, mais attention, en fait, des zombies qui prennent l'apparence d'un nouveau-né, d'un nuage, d'un bœuf, d'un mammouth, en version très malfaisante. Bref, nous allons entendre parler magie et sorcellerie, grâce à la rediffusion de l'émission de Jean-Gabriel Grand, Les Marmitons du Diable, proposée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 4 avril 1950. Mise en garde, la magie, selon Maître Maurice Garçon, n'est pas dangereuse, mais déséquilibrante pour l'esprit.
Nous avons une demi-heure pour vous parler de la magie et de la sorcellerie.
Mais c'est une folie, vous n'y pensez pas. Une vie d'homme n'y suffirait pas. Il existe, à ma connaissance, plus de 500 ouvrages qu'il faudrait étudier, traduire, sans compter les ouvrages sérieux qui ont disparu depuis qu'on parle tant de magie et depuis l'Antiquité, et depuis l'Inquisition. Il faudrait aller chercher dans les philosophies disparues. Et puis la magie a fait couler du sang, a allumé des bouchées, elle peut même le faire encore. Combien de crimes au nom de la magie, des crimes qu'on ignore, mais qui existent. Il existe même actuellement peut-être encore des sorciers qui travaillent dans l'ombre, qui se sont transmis une tradition. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas les découvrir, vous ne pouvez pas les connaître. Si vous consultez des initiés, ils se tairont, ils obéissent aux quatre commandements du Sphinx. Savoir, vouloir, oser se taire. Par conséquent, vous ne pouvez pas prétendre traiter la magie en une demi-heure à la radio, ce n'est pas possible.
Voilà l'opinion de M. Armand Barbeau, qui poursuit depuis plus de 15 ans des études sur la magie, la sorcellerie et l'occultisme.
Sur l'occultisme, surtout sur la magie des plantes. Je recherche principalement à extraire les vertus particulières des plantes selon des principes qui existaient dans l'Antiquité.
D'ailleurs, nous n'avons pas l'intention de tirer des conclusions ni de faire le tour d'un sujet aussi vaste. Nous avons tout simplement réuni aujourd'hui autour de ce micro des gens qui ont eu des contacts de près ou de loin avec la magie et la sorcellerie et nous voudrions vous les faire entendre.
C'est ça.
La sorcellerie est partout de par le monde, en Chine et au Groenland, au Portugal et dans les Indes. Quand Gilles Salah, le chanteur guadeloupéen, retourne aux Antilles, il évite les zombies.
J'ai quelquefois entendu parler des zombies, mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un zombie?
Eh bien, le zombie est un être mystérieux. Ce n'est pas un mort, ce n'est pas un fantôme. C'est un être qui peut à volonté grandir ou se faire tout petit. Il peut avoir la forme d'une antillaise souriante et belle, mais surtout, si un zombie vous apparaît la nuit, ne lui parlez pas à votre première parole, l'apparition deviendrait un géant effrayant. Un chien peut être un zombie et se transformer en bœuf, en mammouth et même vous avaler.
Oh là.
Le zombie peut revêtir l'apparence d'une flamme, d'un nouveau-né, d'un nuage.
Oui.
Et sur toutes ses formes, c'est un être malfaisant qu'il faut éviter.
Juanito Garcia, le danseur flamenco de la Belle de Cadix, est très persuadé de la puissance occulte des gitans.
Oui, oui, je crois que même moi-même, j'ai peur quand un gitan me dit que j'ai été malade ou quelque chose comme ça, je le crois complètement, j'ai peur.
Si un gitan vous donne une malédiction, vous y croyez?
Je crois, carrément, oui. Je crois, sincèrement, je crois.
Bon, est-ce que vous avez entendu parler d'histoires de filtres, de choses qu'on fait boire et qui changent la vie de quelqu'un?
Ça, je ne crois pas. On raconte une histoire à Madrid d'un danseur gitan qui s'appelait Faïko, qu'on l'a trompé ici à Paris avant la guerre, n'est-ce pas? Ils ont dit que toutes les femmes couraient derrière elle, n'est-ce pas? Et une femme lui a donné quelque chose pour la voir à elle tout seul. Et à la fin, on l'a vu à Madrid, on m'a raconté qu'elle était complètement à moitié fou, et elle se regardait dans la glace pour voir si c'était beau et tout ça. On m'a dit ça, mais je ne sais pas si c'est vrai.
Bon, alors, on lui aurait fait boire un filtre?
Oui, un filtre, une chose, je ne sais pas, un ingrédient, je ne sais pas comment on appelle ça, une petite chose.
Oui, et ceci l'aurait rendu fou?
Oui.
En France, au bord de la mer, pendant des vacances, Jean Sergenat a assisté, par hasard, à une scène curieuse.
Alors qu'un soir, je regagnais ma chambre d'hôtel, je m'aperçus que j'avais oublié un livre dans la cabine de bain commune de notre petit groupe. Je m'y rendis et fus très étonné de voir cette cabine éclairée. J'entrouvis la porte et j'aperçus les deux jeunes filles en train d'enfoncer une aiguille à tricoter dans les jambes d'une petite poupée d'argile. Je leur demandai la signification de cette étrange cérémonie. Elles me répondirent sans hésitation qu'il s'agissait d'un envoûtement et que la victime désignée était mon amie. Je me mis à rire. Elles ajoutèrent d'ailleurs qu'elles ne croyaient pas à l'efficacité de ce système, mais qu'on ne savait jamais. Je leur dis qu'elles étaient stupides et je sortis. Eh bien, le lendemain, mon ami se brisait d'une façon extraordinaire les deux jambes sur le remblai de Paramé.
Vous avez peut-être déjà entendu une histoire qui ressemble à celle que Jean-Louis Jacquet, élève des sciences politiques, nous raconte.
Au temps de la Révolution, une domestique fidèle aurait été arrêtée et exécutée par les Bleus, au Val-André, dans les Côtes-du-Nord. Après la Révolution, vers 1820, à la mort du premier châtelain, toutes les vieilles villageoises étant venues donner l'eau bénite, elles remarquèrent une autre femme, enveloppée comme elles toutes, d'une cape noire et du capuchon baissé, mais que personne ne reconnaissait pour femme du pays. À sa sortie, le vent de tempête qui soufflait alors souleva la capuche et à la terreur de toutes, on s'aperçut qu'il n'y avait pas de tête sous cette capuche. À la mort du fils et petit-fils de ce comte, la présence d'une femme inconnue au capuchon noir rabattu fut encore signalée. En 1910, intrigué par cette légende, à la mort de son frère aîné, le dernier comte voulut en avoir le cœur net. La présence d'une femme inconnue, toujours avec la cape et la capuche rabattue, lui ayant été signalée par les villageois effrayés, il la rejoignit devant le château dans la nuit et arracha le capuchon. Il ne vit pas de tête.
Vous doutez peut-être de la puissance de la sorcellerie. Vous êtes sceptique. Alors retenez bien cette recette qu'un de nos amis laotiens a rapportée de son pays.
Vous prenez la cire d'abeille, mettez dans un pot de bronze, en bronze, et vous faites cuire le tout avec le reste d'une bûche qui provient de l'incinération d'un cadavre.
Bon.
Alors, sur le croisement d'une trois routes et à 4 heures du matin. Alors, quand ce sera prêt, vous prononcez cette parole magique.
Bon, alors, on prend un pot en bronze, on y met dedans de la cire d'abeille, on s'installe au croisement de trois routes à 4 heures du matin et on obtient le filtre. Et quand on a ce filtre, qu'est-ce qu'on en fait?
Ben, pour séduire, n'est-ce pas, quelqu'un, vous employez la cire comme un rouge à lèvres, exactement. Mais comme sans couleur, ben, personne ne s'en aperçoit.
Sur sa bouche à soi-même,
sur
alors?
Sur sa bouche à soi-même.
Bon, alors, on se met ceci comme un rouge à lèvres et de cette façon-là, on séduit les gens.
Oui.
Mais on peut séduire une jeune fille et puis...
On peut séduire une jeune fille, on peut séduire un juge, on peut séduire un supérieur ou quelqu'un d'autre.
Il y a mieux encore. Gilles Sala, le chanteur guadeloupéen, a rencontré un beau jour le petit noir qui fait pleuvoir.
Il faut que le petit noir prenne trois oranges, s'agenouille devant chacune d'elles, murmure des paroles inconnues, enfonce une branchette dans chacune d'elles, prend un des fruits, regarde du côté de la mer. En ce moment-là, un nuage apparaît. Le petit noir tend sa branche vers le nuage qui s'arrête au-dessus du jardin desséché. Et une averse tombe.
Naturellement, si vous avez voyagé en Orient, vous avez rencontré des charmeurs de serpents. Alors, vous avez sans doute été témoin de scènes semblables à celles que ce jeune archéologue va vous raconter.
Un jour est arrivé du Sud un des charmeurs de serpents les plus connus du Moyen-Orient qui a proposé à M. Bruyère de le débarrasser des serpents qui pouvaient encombrer sa maison. Évidemment, scepticisme de la part de M. Bruyère. Enfin, pour finir, le charmeur lui dit « Écoute, je vais essayer. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ta maison et je n'ai besoin d'aucun instrument. Je me mets simplement devant la maison et tu verras, je te débarrasserai de ces serpents. » Et alors, il a commencé à réciter les vers du Coran, à parler aux serpents, évidemment en arabe, et la traduction était à peu près la suivante. Il disait « Serpent, cobra, mes amis, je suis Ahmed Mahmoud de tel village, vous me reconnaissez, et c'est moi l'ami des serpents, je connais 700 et quelques sortes de serpents divers. Cobra, serpent, mes amis, venez, 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 venez. » Et chose extraordinaire, de la maison sont sortis deux énormes cobras, qui devaient bien mesurer, je sais pas, moins 1m50, 80, quelque chose comme ça, et qui résistaient au charme du serpent, ça qui était tout à fait curieux, de voir qu'ils se dressaient sur leur queue Ils enflaient leurs glandes à venin, enfin ils n'avaient pas du tout l'air de se laisser charmer facilement. Et le charmeur les a attrapés, et là, c'était tout à fait fini, ils étaient sous le charme. Le charmeur a étendu sa main sur un des serpents, et le serpent est devenu raide, absolument comme un bâton, sinon on aurait pu essayer de le casser, enfin bref. Et il s'est adressé à Madame Bruyère, il lui a dit « Si tu as confiance en moi, je vais lancer un de ces serpents, qui est tout ce qu'il y a de venimeux et dangereux, et tu le ramasseras dans tes mains, tu verras qu'il ne te fera rien. » Et effectivement, Madame Bruyère l'a ramassé, l'a ramené au charmeur, qui lui entourait autour du cou. Le serpent était absolument sous le charme, docile, extraordinaire. Et ensuite, le charmeur a dit « Si vous avez vraiment confiance en moi, je peux vous faire quelque chose, évidemment, un peu plus risqué. » Mais faites-moi confiance, et il a dit à M. Bruyère, tends-moi ton bras, je vais te faire mordre par un de ces cobras. Et effectivement, M. Bruyère a tendu son bras, et le courage de se faire mordre par le cobra. Le charmeur a immédiatement vidé les poches à venin du deuxième cobra, a étendu sur la blessure en prononçant les phrases du Coran, et M. Bruyère n'a ressenti absolument aucun malaise. C'est tout à fait inexplicable, puisque le venin avait été étendu sur la blessure, alors que la morsure avait dû faire son effet déjà dans le sang.
Il n'est pas besoin d'aller aussi loin. On trouve dans tous les petits villages, chez nous, des formules curieuses. Dans le journal Le Berry, Jean-Louis Bonnecœur poursuit une enquête sur la sorcellerie et M. Delors veut bien nous en lire un extrait.
En dehors des quelques épreuves préalables généralement faciles à subir, il suffit d'apprendre la formule du secret. Or, cette formule, si curieux que cela puisse sembler, n'est nullement un mystère. Et le secret est devenu au cours des siècles un vrai secret de polichinelle, puisque tout le monde peut le transmettre ou l'acquérir. La seule restriction à observer est la suivante. Respecter la règle essentielle, toute formule ne pourra être transmise que d'aïeul à descendant, ou d'aîné à cadet. En conséquence, nul ne peut transmettre sous peine de le rendre inefficace le secret à une personne plus âgée que lui.
Première formule pour panser une brûlure.
Feu du ciel perd ta chaleur. Comme Judas perdit sa couleur quand il vendut par passion juive Jésus au jardin des Olives.
Seconde formule.
En passant dans la rue Saint-Blaise, Saint-Jean dit à notre Seigneur, Seigneur, v'là un enfant qui se brûle, si Saint-Jean souffre cet enfant, 3 francs de ton vent.
Une autre formule, celle-là qui convient pour tout, le pansement en quelque sorte omnibus.
Mot, 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 maudit mot. Si t'es dans la moelle, saute dans les yeux. Si t'es dans les yeux, saute dans la viande. Si t'es dans la viande, saute dans la piau. Si t'es dans la piau, saute dans le poêle. Si t'es dans le poêle, saute à terre. Et on l'écrase du bout de son sabot sur le sol. En y traçant une croix et en prononçant 5 paters et 5 aves.
Paul-Émile Victor n'a pas voyagé seulement dans le Grand Nord. Il a rencontré, justement à la Martinique, un témoin de la puissance de la sorcellerie.
J'étais chez un pharmacien lorsque je vis entrer un petit garçon martiniquais qui demanda au pharmacien une petite bouteille d'huile de plume de taureau rouge de la Guadeloupe. Le pharmacien, son bronché, partit dans son arrière-boutique et au bout de 10 minutes, revint avec une bouteille d'huile, de plume, de taureau rouge de la Guadeloupe. Et puis le garçon s'en alla, et alors je demandais au pharmacien comment est-ce qu'il pouvait donner une pareille drogue. Alors il m'a répondu, mais ça, c'est tout simplement un tout petit peu d'huile avec de l'encre rouge dedans. Et vous comprenez bien, me dit-il, si je lui donne pas ça, il ira chez l'autre pharmacien qui le lui donnera. Ce qui veut dire, du point de vue sorcellerie, que, à la Martinique en tout cas, on conseille encore pour se guérir, soit d'une maladie réelle, soit d'un envoûtement, des drogues extraordinaires comme de l'huile de taureau, de plume, de taureau rouge de la Guadeloupe.
Arrivé à ce point de notre enquête, nous avons pensé qu'il n'était pas sans intérêt d'avoir l'opinion de Maître Maurice Garçon, qui s'est toujours penché avec intérêt sur les sorciers, les mages et, à l'occasion, leur démêler avec la justice.
Les sorciers ont toujours été des malchanceux devant la justice. Dans le Deutéronome, il était déjà écrit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Et puis, depuis cette époque, pendant plusieurs millénaires, on les a lapidés, on les a pendus, on les a brûlés, et il en a été ainsi jusqu'au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, après quelques procès très fameux et qui avaient un peu fait scandale tout de même, une ordonnance de Louis XIV en 1682 qui s'appelle l'ordonnance pour la punition des devins, magiciens, sorciers et empoisonneurs, a décidé qu'on ne poursuivrait plus les empoisonneurs et les sorciers que si le crime n'était pas seulement un crime de magie et s'il s'y ajoutait ce que nous appelons aujourd'hui un crime de droit commun, un assassinat, un empoisonnement. L'affaire n'a pas été sans difficulté. Les magistrats de l'époque ont déclaré que l'on abandonnait le crime de lèse-majesté divine. Louis XIV a tenu bon. Mais il ne faut pas croire pour ça que les sorciers en sont sortis. À partir du moment où on a considéré que les sorciers n'étaient plus ni des empoisonneurs ni capables de faire du mal avec leurs maléfices, eh bien on les a traités d'escrocs et on les condamne aujourd'hui comme escrocs, de telle sorte que c'est moins sévère qu'autrefois, on ne les tue pas, mais sous tous les régimes, sous toutes les confessions et dans tous les temps, les sorciers sont condamnés.
On peut dire tout de même que la sorcellerie et surtout la magie, et la magie qu'on appelle noire, sont assez dangereuses, ne croyez-vous pas ?
Je ne le crois pas.
Je veux dire qu'elles compromettent d'abord l'équilibre des gens qui s'y livrent, d'une part, et ensuite qu'elles peuvent sans doute mener assez souvent au crime.
Ah, il est certain qu'en fait d'équilibre, ça mène directement au déséquilibre. Que l'on ne peut pas impunément jouer et se jouer plutôt de tous ces fantasmes sans que la raison à certains moments puisse vaciller. Mais il y a un monde entre celui qui devient déséquilibré parce qu'il croit à des fantasmes et la réalité même de ces fantasmes. Cette réalité, je n'en suis pas sûr du tout.
S'approcher trop près de la sorcellerie ou des sorciers n'est pas sans danger. Paul-Émile Victor a bien failli s'en rendre compte un jour dans le Groenland.
Au Groenland, sans aucun doute, j'ai assisté à un certain nombre de choses curieuses, comme vous dites, amusantes et sortant de l'ordinaire. Mais la chose qui m'a le plus frappé, c'est une visite que je fis à une vieille dame qui s'appelait Kaaga, qui avait 60 ans. Vous voyez que 60 ans chez les Esquimaux, il faut bien comprendre, que 60 ans chez les Esquimaux est déjà un vieil âge, chez nous pas. Une très vieille dame, aveugle depuis fort longtemps, et qui, paraît-il, avait été sorcière, enfin si vous voulez, Angakok, il y a quelques années de ça, il y a 30 ans, 40 ans avant la christianisation. Elle était assise dans le fond de cette caverne noire qui était sa hutte, le torse décharné et nu, les yeux blancs injectés de sang, se dirigeant à peu près partout dans tous les coins de la hutte, et pas particulièrement sur moi puisqu'elle était aveugle. Et pendant des jours, j'avais essayé de lui tirer ses secrets, de lui demander ce qu'elle pouvait m'apprendre, puisque je faisais des études d'ethnologie, ce qu'elle pouvait m'apprendre sur les différents esprits aides qu'elle avait connus, les différentes personnes qu'elle avait fait mourir par magie. Mmh. Et elle me disait toujours, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'un soir, tout à coup, elle partit brutalement dans une crise, une véritable crise de mysticisme, de sorcellerie. Elle se mit à chanter à tue-tête, effrayant naturellement tous les indigènes qui étaient là et qui se précipitèrent hors de la hutte. Je fus le dernier à rester. Et elle entreprit une sorte de conversation à voix basse entre elle et un de ses génies, un de ses esprits aides, qui à tout prix voulait la quitter parce que j'avais posé des questions indiscrètes. Alors elle m'appela de ses doigts crochus. Je m'approchais sans d'ailleurs m'approcher trop près, car j'avais, je vous l'avoue, j'étais à la fois amusé et inquiet. Elle me dit, tu n'entends pas Poutiak qui est en train de parler avec moi. Poutiak, paraît-il, était son esprit aide. Je répondis non, mais qu'il parle donc un peu plus fort, comme ça je l'entendrai peut-être. Alors s'adressant à Poutiak, il lui dit, tu l'entends celui-là comme il est insolent? Venge-toi, venge-toi. Faut dire qu'à ce moment-là, j'étais assez impressionné. Sa conversation continuait avec Poutiak, je n'entendais naturellement que la partie de Kaaga, je n'entendais pas Poutiak. Et au bout d'un moment, elle éclata d'un rire terrifiant, puis éclata en sanglots, se mit à hurler en disant que Poutiak allait s'en aller, et à cause de moi, mais qu'il allait attendre le lendemain matin parce que le temps dehors était trop mauvais. Voilà la seule scène de sorcellerie réelle, réelle, enfin c'est une façon de parler entre guillemets, à laquelle j'ai pu assister au Groenland.
Pourtant, la sorcellerie peut être bénéfique. Et Pierre Devaux, le journaliste du Mystère, a rencontré un jeune homme que la magie a guéri.
À un jeune artiste de grand talent qui s'était risqué dans ce domaine-là, qui avait eu des phénomènes extraordinaires, puisqu'il avait eu même, disait-il, mais sait-on jamais, il avait même, disait-il, eu des morsures faites par un esprit, et un esprit féminin, s'il vous plaît. La mâchoire était petite. Mais enfin, ce garçon, le fait précis, c'est qu'il était en train de devenir aveugle. Il a rencontré un grand mage, un initié, un homme tout à fait remarquable, qui lui a indiqué les quelques mesures à prendre pour faire cesser cet état de choses, et il lui a littéralement sauvé la vue. C'est vous dire que ce garçon courait à la cécité totale, et bien sur ce plan purement pratique, il a été, je puis employer le mot théologique, il a été sauvé.
Mais alors comment a-t-il été sauvé? Par des remèdes ou par,
non,
formules?
Ah oui, certainement, par des formules, par des rites.
Et vous y croyez? Vous en avez eu des preuves?
Écoutez,
celle-là, par exemple.
Je vous dis, oui, j'ai eu cette preuve. D'une façon générale, je ne peux pas dire que j'y crois. Je peux dire que j'en ai vu suffisamment pour qu'il me soit absolument interdit de nier en bloc.
Pierre Deveau est accompagné par Madame Deveau. Et elle va nous dire elle-même combien elle a eu à regretter d'avoir loué la maison où était mort Pierre-Louis.
Mais à peine entrés là-dedans, nous avons commencé par voir dépérir tous nos valets cuisiniers les uns après les autres. L'un qui avait été blessé, un russe qui avait été blessé il y a 20 ans, se portait parfaitement bien depuis 20 ans. Dès qu'il a été chez nous, sa blessure s'est rouverte. Le second a été écrasé par un autobus rue de Rennes. Le troisième est devenu jaune comme un citron et s'est penché tous les jours un peu plus vers la terre. Le quatrième avait plus de 40 degrés de fièvre et quand il nous servait à table, les fourchettes et les cuillères jouaient des castagnettes dans les assiettes, tellement il tremblait de fièvre.
Ben c'est gai.
C'était pas très gai.
Pour une maîtresse de
maison.
C'était
pas très gai. Mon frère a failli mourir en vidant tout simplement un vase de fleurs qui a fait explosion. C'était un gros vase en verre comme une bonbonne qui a explosé, lui a coupé le poignet et il ne peut plus jouer au tennis depuis. Il y a pourtant de cela 10 ans environ. Les valets cuisiniers, ça en a fait 7 en 3 mois qui étaient bons à jeter carrément aux ordures, absolument comme de vieilles loques. Et alors de mon côté, c'était encore beaucoup plus tragique. Je ne pouvais plus du tout respirer et pour ainsi dire pas avaler. Exactement l'impression d'un étranglement. Si deux mains de fer dur avaient étranglé, serré le cou, ça aurait été exactement semblable.
Et vous croyez que le malheureux Pierre-Louis y était pour quelque chose, ou du moins sa mémoire?
Je ne crois pas que Pierre-Louis lui-même y était pour quelque chose. Je crois qu'il a passé là-dedans 10 années extrêmement pénibles, qu'il était aveugle, qu'il est mort désespéré. Après lui, la propriétaire était la veuve d'un espion qui a été fusillé avec Matahari. Je crois que ces jours de plusieurs années ont laissé une imprégnation. En tout cas, cette dame que j'ai connue et qui est morte finalement assez tragiquement, me disait « Quand je quitte Paris, je vais très bien, et dès que je reviens à Paris, je suis extrêmement malade. » Et nous n'avons pas, elle ne faisait pas le rapprochement, évidemment.
Votre époux veut dire quelque chose.
Oui, j'interviens ici pour vous dire que dans la littérature des maisons hantées, il est extrêmement fréquent que la hantise provienne d'un drame de sang ou d'un événement très brutal, très violent, qui a provoqué un développement d'émotivité très considérable. La terreur de la victime, la colère du meurtrier, la colère et l'espoir d'esprit de vengeance des membres de la famille de la victime, tout cela imprègne en quelque sorte les murs. Un médium anglais disait « Lorsque j'entre dans une pièce où s'est passé quelque chose de grave, un acte de violence, je sens toute l'influence humaine, tout le fluide qui imprègne les murs. » Vous voyez ici quelque chose d'analogue à ce petit phénomène que je vous signalais tout à l'heure, du gant ou du stylographe que vous portez une voyante et qui porte une imprégnation du propriétaire. Je crois que dans cette maison où nous habitions, il y avait une imprégnation de malheur que je ne peux pas spécifier. La maison d'ailleurs a été examinée par des radiesthésistes, on m'a indiqué qu'elle était construite sur une faille, mais il y avait certainement des choses bien plus compliquées que cela.
Mais elle a été exorcisée, n'est-ce pas, madame?
Elle a été exorcisée par un pope russe, qui a d'ailleurs eu l'impression que notre valet cuisinier était possédé du démon, mais je crois que c'était beaucoup plus simple comme explication. Ce malheureux garçon était en train de faire la chambre, quand la porte s'ouvre, un pope russe qui ne l'attendait pas apparaît, fait un signe cabalistique et dit non d'eau bénite. Naturellement, le malheureux a sursauté.
Mais voici que la science montre le bout du nez, fort heureusement. Les phénomènes des sciences occultes sont étudiés de nos jours systématiquement en laboratoire. De là à les expliquer, il y a un pas que la science n'a pas encore franchi. Mais je laisse encore à Pierre Deveau le soin de nous en parler.
Pour tout le monde, l'envoûtement représente une chose aujourd'hui dépassée. On parle des envoûtements que faisait Catherine de Médicis ou Alexandre Borgia. Oui, Sans doute, à cette époque-là, on connaissait des procédés qui nous semblent aujourd'hui bizarres ou barbares. Par exemple, on se procurait de la cire vierge que l'on imprégnait du fluide de la personne. On faisait une petite statue à l'image de la personne. On implantait dans la tête de la statue des cheveux prélevés sur la personne, lorsqu'on pouvait. Et ensuite, en torturant cette statuette, on obtenait les résultats les plus étonnants. On lui perçait le foie. Et le malheureux, à distance, était pris d'une maladie de foie. On lui perçait les yeux, il devenait aveugle. L'Église, du reste, réprimait sévèrement ses coutumes. Eh bien, je vous étonnerai peut-être, mon cher Grand, en vous disant qu'actuellement, du moins il y a quelques années, dans des laboratoires, des essais très sérieux ont été repris pour voir si vraiment on pouvait obtenir de la sorte des actions sur les personnes à distance.
Quoi, la magie en laboratoire ?
Oui, oui, la magie et même la magie noire au laboratoire. Je dois dire que on n'est pas arrivé à agir au laboratoire, par la magie, sur des personnes comme vous et moi. Ce serait trop beau, ou je veux dire, ce serait plutôt trop dangereux. On est arrivé à agir sur des médiums. Les expériences les plus célèbres ont été celles, en France tout au moins, ont été celles de M. de Rochas. M. de Rochas a disposé de différents médiums, et il en avait en particulier deux simultanément. L'un d'eux s'appelait Albert. Eh bien, on est arrivé à transporter la sensibilité d'Albert dans un verre d'eau. C'est-à-dire que l'eau conservait la sensibilité d'Albert. Et lorsque on piquait cette eau avec une épingle, eh bien, Albert, qui était en transe, qui était à distance, qui était endormi par conséquent, qui ne voyait pas ce que l'on faisait, poussait un cri. Le second médium, lui, voyait la sensibilité qui était dans l'eau. L'eau était lumineuse et il y avait une espèce de colonne d'aigrette lumineuse qui flottait au-dessus de la surface comme une fleur. Avec Madame d'Espérance, on a fait des expériences de photographie. Madame d'Espérance était un excellent médium. On prenait une photographie de Madame d'Espérance et on pinçait ou on touchait un point quelconque de la photographie. Et aussitôt, Madame d'Espérance accusait le coup, si je puis dire, disait « on m'a touché à la jambe, on m'a touché à l'épaule ». Et de Rochas, un jour, a été plus loin. Il a blessé la photographie, la gélatine délicate de la photographie avec une épingle à la jambe, et Madame d'Espérance a poussé un cri et s'est évanouie, et une raie rouge, un véritable stigmate, est apparue sur la jambe.
Les médiums et leur extraordinaire sensibilité ont intéressé aussi Maître Thirault, avocat à la cour.
C'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, j'ai beaucoup fréquenté les milieux spirites, et que j'étais membre notamment du cercle Allan Kardec, qui se tenait quelque part dans un vieil hôtel de la rue Saint-Jacques. J'ai assisté à de nombreuses séances données par les grands médiums du moment. J'ai vu Cradock, qui était un médium anglais, Miller, qui était un médium américain, et particulièrement Eusapia Palladino, qui a laissé un nom particulièrement remarquable dans le spiritisme. C'était une femme très curieuse, qui notamment avait un trou dans la tête à l'emplacement des fontanelles dans lequel on aurait pu mettre la moitié du poing. À certains moments, lorsqu'elle était dans un état particulier, au moins d'irritation, même souvent d'irritation simplement, on remarquait une espèce d'aura autour de sa tête, ses cheveux devenant un peu phosphorescents. C'était une femme très curieuse qui avait été à la cour de Russie pendant très longtemps. Nous avons fait différentes séances avec elle, notamment chez des amis, et dans un milieu qui était particulièrement sceptique et qui comprenait notamment plusieurs docteurs qui venaient là avec l'idée de voir et de constater et sans avoir la préparation nécessaire et spirituelle, si l'on peut dire. Et nous avions pris la précaution d'acheter le jour même la table qui servait à nos expériences, de façon à éviter tout trucage possible. Le fait s'est passé dans un salon, avec une demi-lumière, mais pas dans l'obscurité. Et nous avons vu la table se soulever sans contact, puisque Eusapia avait les deux mains tenues par deux des docteurs qui la contrôlaient. La table s'est soulevée, et nous nous sommes mis à quatre, après chaque pied de la table, sans pouvoir la faire redescendre.
Ne continuons pas à parler lévitation, formule d'envoûtement ancienne ou moderne, table dansante, maison hantée, où nous allons avoir l'impression que les meubles familiers autour de nous vont se mettre à tourner et à danser. Soyons prudents, et laissons la conclusion à un journaliste, Maurice Bessy.
Deux motocyclistes sanglés de cuir, assez semblables aux policiers des services d'ordre, sont dans le dernier film de Jean Cocteau, Orphée, les messagers de la mort. Or, le soir où Cocteau présenta son film à la presse, il fut happé par un motocycliste et échappa de justesse à un accident. Il y a quelques instants, en me rendant ici, je songeais à cette anecdote, je me proposais de vous la raconter, lorsqu'en traversant la rue, j'ai soudainement été encadré par deux motocyclistes qui m'ont raté de peu. Message, avertissement ou simple coïncidence, à vous d'en décider.
Je préférerais votre propre explication. L'attachement que vous portez au phénomène magique, les études que vous avez faites sur les sciences occultes me permettent d'espérer...
Vous permettent d'espérer pas grand-chose, car la magie n'est pas une science exacte. Cela en parle d'abondance qui en ignore jusqu'au rudiment. Quant aux initiés eux-mêmes, ils préfèrent le silence.
Qu'entendez-vous exactement par initié ?
L'initié, c'est celui qui s'approche beaucoup plus que les hommes ordinaires des secrets du monde et qui parfois en connaissent quelques-uns. Mais l'initiation n'est pas héréditaire. Vous aurez beau lire tous les ouvrages, tous les grimoires possibles, être dans l'intimité de ceux qui possèdent la clé de la connaissance et néanmoins ne rien savoir, ne rien deviner même de ce qui existe au-delà de notre perception humaine.
Mais comment atteindre ces mystères, ces secrets ?
Ne cédez pas, je vous prie, à une curiosité bien banale. Ceux-là les atteignent qui ont le devoir de soulever ce que l'on peut appeler le voile d'airain et d'arriver au lieu habituellement inaccessible à la raison.
C'est donc un monde fermé ?
Pas du tout. Partez d'abord du principe qu'il n'y a rien de surnaturel dans le monde, que le miracle n'existe pas, qu'il n'existe pas davantage d'êtres prédestinés. Cependant, à côté des sciences proprement dites, il existe une méthode synthétique, une philosophie de la loi d'unité, et telle est la tâche des occultistes de nos jours.
C'était Les Marmitons du Diable, magie et sorcellerie par Jean-Gabriel Grand. Première diffusion sur la chaîne parisienne le 4 avril 1950. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.